Chapitre 81. Même avec les pertes infligées aux Norukai et aux Sudardutrus, Nichi ne se faisait plus d'illusions. Au bout du compte, Tanimura ne tiendrait pas. Depuis le siège du palais du peuple par les hordes de Jagang, elle n'avait plus vu une bataille d'une telle ampleur. Les survivants de la milice se retiraient du bois de Hagen. Laissant un charnier derrière eux, ils revenaient en ville pour se retrouver au milieu d'autres massacres. Le gros des troupes d'Outreau s'avançait vers le cœur de Tanimura. D'autres unités, plus modestes, se déversaient dans les rues pour piller les bâtiments et renverser les barricades improvisées par les habitants. Dans les maisons, sur les toits, au fond des impasses, on se battait partout et c'était pour ça que les défenseurs faisaient encore illusion, mais contre le nombre, nul ne pouvait rien. Sur une grande place publique devant elle, Nichi repéra l'étendard de Linden. Avec ses braves, le général s'offrait à ce qu'on était en droit d'appeler un baroud d'honneur. Consciente que ses miliciens avaient besoin d'elle, Nichi les guida vers le lieu probable de leur mort à tous, mais tomber près de Linden serait un honneur. Les spectres suivirent leur libératrice. Dans le bois de Hagen, beaucoup d'entre eux étaient tombés, mais ils ne semblaient pas disposés à compter leur mort pour le moment. Le souffle un peu court, Asha sourit à la magicienne.
« Nous avons traversé un continent pour toi. Pas question de t'abandonner aujourd'hui. »
Les autres habitants d'Orogang affichaient la même détermination. 15 siècles durant, ils avaient attendu le retour d'Outros, mais leur héros s'était retourné contre eux. Avec l'aide des panthères, ces combattants féroces sauveraient peut-être Linden et ses hommes. Provisoirement, en tout cas. Sur leur chemin, miliciens, spectres et panthères firent en tout cas un carnage. Sur la place entourée de bâtiments, Linden semblait avoir choisi sa dernière position. Derrière une rangée de boucliers, ses guerriers attendaient l'assaut final. Tout à fait à l'arrière, les archers lâchaient volée de flèches sur volée de flèches, mais rien ne ralentissait longtemps la charge furieuse des Soudards. Linden cria un ordre qui aurait bien pu être le dernier. Aussitôt, un homme brandit la bannière aux couleurs de Dara ornée du R de la maison Râle. La première ligne résista jusqu'à ce qu'un de ses flancs cède sans raison apparente. S'engouffrant dans la brèche, des soldats d'Outreau s'en profitèrent pour aller semer la mort au cœur de la formation. Du moins, ils le croyaient. Malgré la gravité du moment, Nichi sourit devant tant d'intelligence. La brèche étant un leurre, pour preuve, la première ligne était déjà reformée. Une trentaine de soudards se feraient charcuter par un comité d'accueil soucieux de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Du cœur de la formation jaillirent deux éclairs qui foudroyèrent un officier et son second sur la première ligne d'attaquants. Déchiquetés, les antiques guerriers n'avaient même pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Intrigué, Nichi chercha la source de ces attaques et découvrit un vieux sorcier aux longs cheveux blancs drapé dans une cape somptueuse.
« Nathan !»
cria la magicienne. Dans le vacarme ambiant, son vieux compagnon ne l'entendit pas. Levant une main vers le ciel, Nichi la baissa brusquement pour envoyer trois éclairs carboniser un trio de soldats près de ceux que Nathan avait réduits en cendres. Son attention attirée, le vieil homme agita les bras. À ses côtés, Bannon et Lila gesticulèrent joyeusement. Un bélier d'air leur dégageant le passage, Nichi guida ses vaillants survivants jusqu'à la position de Linden. Alors que ses semblables déchiquetaient des soldats, Mara resta aux côtés de sa sœur humaine. Après une si longue séparation, elle n'avait pas le cœur à s'en éloigner. Sans faillir, la magicienne continua à avancer vers le général Linden. En chemin, elle lança d'autres éclairs qui semèrent la mort et la panique dans les rangs ennemis. Hélas, malgré toutes ses petites victoires, la marée humaine se déversait toujours dans Tanimura. Oubliant sa fatigue, Nichi mobilisa tout ce qui lui restait de force et de puissance. Mesurant les enjeux, elle décida de recourir à une forme terrifiante de destruction qui impliquait l'utilisation de la magie soustractive. Cette version du pouvoir, elle évitait de l'utiliser au combat, sauf dans les cas désespérés. Désormais au service de l'Empire d'Aran et de Richard, elle préférait oublier les compétences acquises lorsqu'elle était une sœur de l'obscurité. Mais en matière de cas désespérés, on ne pouvait guère imaginer pire. S'ouvrant aux composantes additives et soustractives de son don, la magicienne invoqua deux nouveaux éclairs. Cette fois, elle leur ajouta un jumeau obscur, une lance de lumière noire comme le reflet d'un miroir, mais avec une existence autonome. Les traits mortels zigzaguèrent, chacun tuant à lui seul une centaine d'ennemis. Leur élan coupé, les attaquants marquèrent une pause, exactement le répit qu'il fallait à Nietzsche pour que ses braves et elles fassent la jonction avec les forces de Linden.
« Merci, magicienne !»
souffla le général. Épuisé et blessé, son bouclier cabossé et sa cuirasse déchirée, il n'aurait pas dû tenir sur ses jambes. Mais les hommes comme lui ne se laissaient pas arrêter par ces contingences-là. Nathan accourut, rayonnant.
« Par les esprits du bien, je suis ravi de te voir. Je sais que te servir de la magie soustractive comme d'une arme te répugne, mais tu ne pouvais pas faire autrement. »
Avisant les spectres et les panthères, le vieux sorcier fronça les sourcils.
« Je vois que tu as de nouveaux amis. »
Ses cheveux roux, teints en rouge vif par le sang des soudards, Bannon partageait la jubilation de Nathan.
« Enfin, on va pouvoir lutter ensemble. Les Norokaïs étant presque vaincus, le capitaine Jared nous a déposés au port pour qu'on participe à la défense. »
Incapable de se retenir davantage, il annonça sa grande nouvelle.
« Calvert est mort !»
Nietzsche n'en attendait pas tant.
« Salement, j'espère. Mon gars l'a tué, »
répondit Lila, vibrante de fierté.
« Décapitation franche et nette. »
Nietzsche gratifia le jeune escrimeur d'un hochement de tête approbateur.
« Une fin méritée, oui. Devant le port, nous avons flanqué de sacrés coups à l'armada, puis la flotte de Sérimundi est venue l'achever. »
Nathan tourna la tête en direction du port. À l'intérieur comme à l'extérieur, des galères finissaient de se consumer ou de couler. Mais les Norukai ne s'étaient pas laissés vaincre sans résister. Sur l'eau, le combat continuait et des pillards saccageaient encore les rues. Plus grave encore, l'armée d'Outreau s'approchait de tous côtés. Nietzsche repéra le général, aisément reconnaissable à cause de son casque. Au sommet d'une colline, il dirigeait de loin les opérations. À ses côtés, Rouva plastronnait sur sa monture. Au fil des heures, les soudards raseraient à Nimura. Bientôt, il ne resterait plus que des ruines compactées, comme sur l'île Collet. La fumée des incendies occultait par moments le soleil, et les échos de la bataille montaient des quatre points cardinaux. Survolant le carnage, des mouettes criaillaient d'excitation à l'idée du festin qui les attendait. Le teint grisâtre, Nathan semblait avoir du mal à respirer.
« J'ai tant puisé dans mon don,
avoua-t-il,
qu'il ne me reste pas grand-chose. Heureusement te voilà avec ta magie soustractive, une arme dont aucun d'entre nous ne dispose. »
« Et dont je me servirai s'il le faut, oui. Nous avons juré à Richard de défendre Dara et il n'ignore rien de mes compétences. » Pour empêcher Outros d'attaquer le Nouveau Monde, je suis prête à tout. Là-bas, Richard aussi a des problèmes et il compte sur moi.
Nietzsche devait arrêter Outros ici et maintenant. L'unique façon d'être à la hauteur de son amour pour Richard. Avant, elle aurait voulu le revoir une dernière fois, mais ce ne serait pas possible. Même s'il ne l'aimerait jamais en retour, son respect, son amitié et sa confiance lui insufflaient une force et une détermination qu'elle ne se serait pas soupçonnée. Richard croyait en elle. Et selon lui, avec le cube, il lui avait fourni tout ce qu'il fallait pour vaincre. Enfin, il n'était pas du genre à l'abandonner. Elle repensa à la petite boîte en os et au construct qu'elle contenait. Malgré de gros efforts, elle n'avait pas réussi à déchiffrer le message de Richard. La vie pour les vivants et la mort pour les morts. Qu'est-ce que ça signifiait? Et quel parti en tirer? Tant de combattants étaient morts. Pourtant, l'antique armée continuait à avancer. Ces soldats auraient dû être chez le gardien depuis 15 siècles, mais le sort de pétrification des sorciers d'Ildakar avait modifié la donne. Sinon, tous les guerriers d'Outros auraient dû séjourner dans le royaume des morts. La mort pour les morts. Une idée lui traversant l'esprit, Nietzsche sortit la boîte de sa poche et la tint sur sa peau maculée de sang. Dès que l'os fut en contact avec le fluide vital, le cube et ses inscriptions réagirent. Sur chaque face, les emblèmes brillèrent. La vie pour les vivants et la mort pour les morts. Les idées enfin en place dans son esprit, la magicienne comprit soudain qu'elle était passée à côté de quelque chose. L'élément manquant qu'elle avait négligé. La réponse était là depuis toujours, sous ses yeux, mais elle n'avait pas su la voir. Plutôt, elle n'avait pas su penser à la façon de Richard. Pour analyser la petite sphère en lévitation, elle avait recouru à une méthode qu'elle connaissait bien. Une toile de vérification, la solution évidente. Mais si elle avait utilisé la magie soustractive pour activer la toile, elle ne l'avait pas appliquée sur le construct. Or, ce sortilège contenait des traces de la magie originelle, celle qui avait présidé à la construction de la forteresse en un temps où tous les sorciers maîtrisaient les deux formes de pouvoir. Un tel sort défensif, comment avait-elle pu ne pas y penser, devait intégrer des éléments soustractifs. Richard le savait, bien entendu. Pourquoi n'avait-elle pas compris? Si Nathan, les érudits de surplomb du monde et les sœurs de la lumière s'étaient révélés incapables de l'aider, ça n'avait rien d'étonnant. Au plus chaud de la bataille, alors que la réponse se précisait dans son esprit, Nietzsche sentit son cœur battre la chamade. Sans magie soustractive, le construct était inerte. Voilà pourquoi elle n'en avait rien tiré. Toucher la perle de la lumière avec son pouvoir ne servait à rien si elle utilisait la moitié de son don. Pour obtenir un résultat, il fallait les deux variantes de magie. L'élément manquant, il était là. À présent, elle savait que faire. Et comme le disait Richard, c'était tout ce dont elle aurait besoin. Nietzsche referma le cube et eut un sourire cruel. Sur la colline, elle voyait toujours le général Outros, mais il était bien trop loin. Elle allait devoir s'approcher.
« Il faut que j'envoie un message à Outros, » dit-elle. « Un ultimatum. »
Sur la place, des spectres de Rogang se glissaient entre les attaquants, frappaient et disparaissaient. Habitués à se faufiler dans les ombres, ces hommes et ces femmes étaient exactement ce qu'il lui fallait.
« Asha, j'ai besoin de vous. Une mission pour toi et pour les tiens. La victoire peut en dépendre. »
Asha accourut, une lame ensanglantée au poing. Cinq autres spectres la rejoignirent.
« Nous sommes à ton service, Nietzsche. »
La magicienne se pencha vers les six volontaires.
« Coûte que coûte, je veux que vous transmettiez un message au général Outros. Contournez l'ennemi ou traversez ses rangs, mais contactez le général. »
Elle désigna Outros sur la colline.
« Dites-lui que je veux parlementer. Rendez-vous sur l'île Collet. Précisez que cet ultimatum est signé Nietzsche, la magicienne qui a tué Ava. Il viendra, c'est certain. »
Nathan n'en crut pas ses oreilles.
« Par les esprits du bien, tu sais ce que tu es en train de faire ?»
Nietzsche tapota le cube dans sa poche.
« Plus que jamais. Richard a dit que le construct suffirait. Outros doit venir m'affronter. »
Asha acquiesça puis parla au nom de ses camarades.
« Nous ne te décevrons pas, Nietzsche. Sur les six, l'un de nous délivrera le message. »
Leur tenue grise les rendant presque invisibles dans le chaos, les spectres s'enfoncèrent dans les rangs ennemis. Au milieu de la bataille, alors que le flot d'antiques guerriers ne se tarissait pas, Oliver luttait pour garder le moral. Chaque fois qu'un soudard tombait, 10 autres prenaient sa place, autant vouloir vider l'océan avec un seau. Insensible à la peur, Peretta continuait à bombarder les soldats d'éclairs aveuglants. Les camarades de ses victimes voyant ce qu'elle faisait, elle était devenue une cible. Oliver repéra un archer qui la visait.
« Peretta !»
cria-t'il. Trop tard pour que son ami puisse éviter le trait mortel. Par bonheur, le jeune homme se souvint de son entraînement et généra un souffle d'air qui altéra la trajectoire de la flèche, juste ce qu'il fallait pour qu'elle frôle l'épaule de Peretta. En l'écorchant cependant. Après avoir grimacé de douleur, la jeune femme réussit à sourire à son sauveur.
« Merci, Oliver !»
Pour se venger, l'érudit aveugla l'archer et Oliver, avec un petit sort de chaleur, lui arracha son arme des mains. Se détendant comme un ressort, l'arc blessa le sinistre personnage au visage.
« Il faut trouver une meilleure façon de combattre !» dit Ambre en accourant. « Ces sorts individuels sont trop anodins face à une telle armée. On fait de notre mieux !»
objecta Peretta.
« Mais tout ce que nous avons étudié à surplomb du monde, tout ça doit bien nous servir !»
Oliver soupira tristement.
« On a trouvé un sort pour faire sortir les scorpions de terre, mais ici il n'y a pas de scorpions. »« C'est vrai pourtant. Quelle nuisible grouille dans une cité !»
Avec un petit sourire, Ambre attendit la réponse de ses amis. Oliver dut donner sa langue au chat. En matière de ville, il n'avait guère d'expérience, car surplomb du monde ne ressemblait à aucune autre. Pour commencer, on n'y trouvait rien de sale, et pas davantage de foule agressive et déplaisante. Peretta aussi sa voix vaincue.
« Des rats !»
lança Ambre.
« Sous toutes les villes, on en trouve des milliers !»«
Oui !»
s'écria Peretta.
« En utilisant le même sort,
on peut faire sortir les rongeurs des égouts, des tas d'ordures et des caniveaux. »
Entouré de ses hommes blessés et épuisés, un capitaine d'Aran cria de défi à l'intention des Soudars qui les encerclaient. Sa lame levée, il leur donna une ultime charge. 100 soldats contre une marée d'antiques guerriers.
« Vite !»
cria Ambre. S'agenouillant, elle posa les mains sur les dalles de la place. Épaule contre épaule, Peretta et Oliver l'imitèrent.
« Rappelez-vous le sortilège qui a invoqué les scorpions. Faites venir les rats. Vous les sentez ?»
Oliver capta un fourmillement au bout de ses doigts.
« Oui, je crois. De petites créatures à fourrure, mais avec des dents acérées. Des rongeurs affamés !»
fit Peretta.
« Ils crèvent de faim !»
Unissant leurs dons, les trois jeunes gens appelèrent les rats. Alors que le cerveau des scorpions n'était pas capable de résister, les rongeurs se montrèrent beaucoup plus intelligents. Mais le trio parvint quand même à les convaincre qu'ils voulaient sortir de leur cachette. Oliver sentit que de petites pattes grattaient la pierre des égouts et des caniveaux. Dents et griffes dehors, les rats aux yeux rouges et à la queue rose jaillirent des entrailles de Tanimura. Alors que la charge héroïque se fut brisée sur une muraille de boucliers, la contre-attaque adverse se révéla dévastatrice. À 10 contre 1, les Soudars firent un massacre et le pauvre capitaine lui-même fut submergé par le nombre. Jusqu'à ce que les rats, comme les scorpions à surplomb du monde, se déversent dans la rue comme un flot de lave. Réduits au rôle peu reluisant de vermine, une injustice pour des créatures si complexes, ils se révélèrent aptes à défendre leur cité. Devant ces multitudes déchaînées, les envahisseurs ne surent que faire. Quand des dents s'enfoncèrent dans leurs mollets, les plus petits rats remontant le long de leurs jambes pour se glisser sous leurs cuirasses, ces hommes pourtant si durs perdirent le contrôle de leurs nerfs. Fous de terreur, ils s'éparpillèrent, une seule idée en tête, échapper aux rongeurs. Fascinés, Oliver, Peretta et Ambre regardèrent l'armée de l'ombre mettre en déroute les guerriers des ténèbres.